1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons découvrir quels sont les grands principes organisateurs de ces flux dont nous avons vu quelques cartes inextricables précédemment. Commençons par localiser des infrastructures qui permettent les échanges aujourd'hui. Cette carte des antennes téléphoniques aux États-Unis montre de très grandes inégalités de concentration de lieux où ces antennes sont implantées. Et bien évidemment, nous reconnaissons l'ordre sous-jacent à ces implantations des lieux d'intensité d'échange qui sont les principales villes des États-Unis représentées sur cette carte. Si maintenant nous considérons la distribution géographique, non plus de l'infrastructure qui permet l'échange, mais des échanges eux-mêmes, avec les messages Twitter émis sur cette carte de l'Europe étendue jusqu'à la Russie, nous observons de très fortes variations de l'intensité de ces messages émis qui reproduisent aussi très largement les inégalités de l'urbanisation européenne telles qu'elles ont pu être figurées ici par l'Agence européenne de l'espace à partir des images satellitaires qu'elle analyse dans sa base de données Corinne Landcover, indiquant en rouge les zones urbanisées. Nous allons également retrouver des configurations géographiques intéressantes à partir de cette représentation des échanges, des appels téléphoniques intervenus dans le Royaume-Uni par un laboratoire du MIT. Cette étude menée par Carlo Ratti et ses collègues identifie des zones où les lieux sont reliés très fréquemment par des appels téléphoniques et ces zones sont représentées de la même couleur. Alors il s'agit là d'un exercice de big data puisque nous avons plusieurs milliards d'appels échangés pendant une période d'un mois et nous avons quelque chose comme 85 millions de liens entre des lieux différents qui forment une espèce de grand réseau dans lequel la proximité, vous le voyez, met un ordre évident, puisque, assez paradoxalement, alors même qu'il n'y a pas de tarifs différenciés en fonction de la distance des appels, eh bien, nous voyons que ce sont des personnes localisées dans des lieux voisins qui s'appellent davantage. Et il est tout aussi frappant de constater que ces zones d'appel préférentiels, en quelque sorte, retrouvent des divisions administratives qui, elles, représentent des échanges aussi, mais accumulés sur un temps beaucoup plus long, ayant conduit à fabriquer des territoires délimités, figés par une institution, mais qui sont retrouvés, au moins partiellement, par les espaces vécus aujourd'hui par les personnes qui utilisent le téléphone. Évidemment, il y a quelques écarts que les géographes prennent plaisir à étudier pour analyser l'évolution de ces territoires vécus au quotidien et peut-être proposer à terme une réforme territoriale. Nous avons non seulement des travaux d'analyse quantitatifs sur ces échanges, mais aussi des analyses qualitatives qui permettent de se représenter le contenu sémantique des messages échangés sur Twitter. Et ici, le laboratoire Complexity de l'Université technologique de Shanghai a réuni des messages ayant trait à l'hospitalisation, ce qui permet de localiser avec une assez bonne précision dans l'espace shanghaïen l'emplacement de ces établissements hospitaliers. Donc, nous travaillons avec des échanges qui, en fait, concernent les territoires en géographie et qui se produisent avec suffisamment de régularité pour qu'on puisse énoncer à leur sujet des lois. Ces lois, c'est en général à Ravenstein qu'on les attribue, qui, le premier, avait analysé assez précisément les résultats des recensements anglais en 1871 et 1881 et établi aussitôt ce qu'il appelait donc des lois de la migration. Ces lois indiquaient que la proximité régissait en grande partie la logique de ces différences entre le lieu de naissance et le lieu d'habitation des personnes, puisque, vous le voyez, les flux cartographiés par Ravenstein s'organisaient de cette manière. Ravenstein énonçait aussi, dans ses lois de la migration, l'idée que les migrations à courte distance étaient de loin beaucoup les plus fréquentes, qu'on avait une inégalité dans l'espace géographique entre des lieux d'absorption, en général des villes industrielles à l'époque, et des lieux d'émission, qui étaient les zones rurales, puisque une énorme partie de ces migrations liées à cette deuxième époque de la révolution industrielle étaient des migrations des zones rurales vers les zones urbaines. Ravenstein avait constaté également que chaque flux était en quelque sorte accompagné d'un contre-flux, c'est-à-dire que soit les mêmes personnes reviennent à des lieux d'où elles sont originaires, soit il y a des substitutions qui font qu'au total, les migrations se soldent par beaucoup moins de modifications dans l'espace géographique que l'énormité des échanges auxquels elles ont donné lieu. Et puis, Ravenstein avait également identifié ce fait très fréquent que des relais s'interposent entre une destination, une origine, un lieu d'origine et une destination finale. Les étapes, les relais de migration ont été maintes fois constatés, en particulier dans les analyses des migrations de type exode rural. Je voudrais maintenant vous montrer, pour terminer, deux cartes qui représentent les migrations entre les grandes villes françaises à deux intervalles entre les recensements, deux intervalles consécutifs entre 1975 et 1982 et entre 1982 et 1990. Vous avez l'impression d'avoir vu la même carte. Eh bien, c'est tout à fait exact, dans la mesure où dans les deux cas, vous le voyez, les plus grands flux sont à origine ou à destination de la région Île-de-France, qui est de loin, et de l'agglomération parisienne, qui est de loin la plus peuplée en France et qui a la plus longue portée dans ses échanges, avec flux et contre-flux. Et vous observez également que ce sont les principales métropoles du territoire français qui, à un niveau d'intensité de migration moindre, établissent des flux, mais avec les villes voisines en général. Nous avons donc, avec cet exemple, identifié les deux principales données qui vont nous permettre d'analyser l'intensité et la direction des échanges, et ce sont d'une part les masses des lieux d'origine et de destination, des migrations ou des échanges ou des appels, et d'autre part la distance qui les sépare. Nous allons donc énoncer un modèle gravitaire qui ressemble dans sa formulation à ce qu'énonçait Newton. Les lieux de l'espace géographique ont des échanges qui sont proportionnels au produit des masses des lieux d'origine et de destination et inversement proportionnels à la distance qui les sépare. C'est l'ordre sous-jacent à la distribution des échanges.